Bonsoir et bienvenue à la deuxième rencontre de notre série de conférences. Nous avons donc le plaisir d'accueillir Sébastien Maillard, donc, qui est actuellement le directeur de l'Institut Jacques Delors. L'Institut Jacques Delors, il nous dira quelque chose éventuellement, mais donc, qui a été fondé par Jacques Delors. Les étudiants qui étaient en visite au Comité économique et social se souviendront que le bâtiment est intitulé à Jacques Delors, le bâtiment du Comité économique et social. Donc intitulé donc un bâtiment à un vivant, donc ça vous donne un petit peu les signaux de l'autorité, de l'admiration, de l'estime qu'on a à niveau européen, qu'on a porté pour le président de la Commission européenne pendant 10 ans, qui était Jacques Delors. Donc l'institut qu'il a fondé, maintenant il est dirigé par Sébastien. Donc c'est une tâche qui est fascinante, donc, mais sans doute elle est due aussi à vos mérites et vos compétences. Et avant d'assumer cette charge, il était journaliste à La Croix, correspondant de Bruxelles pendant quelques années, et ensuite correspondant de La Croix à Rome. Donc il a un peu ces deux visions européennes et aussi, je dirais, Vatican de la situation. Il a engagé dans plusieurs actions européennes, mais aussi il a enseigné à Sciences Po Paris et Boston College, et il est auteur de plusieurs publications. Certains de ses travaux plus récents, vous les trouvez sur les sites de l'Institut Jacques Delors, site que je vous invite à explorer. Pas mal de papers, de working papers, comme on appelle aujourd'hui, assez intéressants. Et deux travaux qu'il a réalisé aussi, qu'avons-nous fait de l'Europe, préface de Jacques Delors, ce sont des lettres qu'il a adressées à Robert Schuman, et aussi la réponse de Robert Schuman, et plus récemment avec Enrico Letta, ancien premier ministre italien, actuellement président de l'Institut Jacques Delors, Faire l'Europe dans un monde brut. Donc c'est un livre à deux qu'ils ont écrit récemment.
Et qui va sortir en poche.
Elle va sortir un peu très bien. Donc, vous voulez une longue expérience, et donc on est bien content de l'avoir avec nous, et on le remercie d'avance.
Merci Enzo, et merci à l'IET de cet accueil. C'est un honneur de parler ici, et peut-être un vrai défi de m'avoir confié ce sujet. L'Europe, quelle identité. Puisque quand j'ai commencé à préparer, je me suis dit, mais c'est en fait le sujet le plus glissant et casse-gueule qui soit, alors j'espère que la soirée va bien se passer. Mais en fait, en préparant, je me suis dit que, après tout, si on m'avait demandé de faire un topo sur l'identité française, ou sur l'identité, aujourd'hui, sur l'identité britannique, ou sur l'identité allemande, ou même sous l'identité belge, ou hongroise, enfin, tout ça, ce serait aussi très difficile. Et donc, l'identité espagnole aussi aujourd'hui. Donc, finalement, c'est, quel que soit qu'on prend, finalement, l'identité européenne, c'est redoutable, mais les autres aussi. Alors, et peut-être c'est encore plus redoutable d'en parler dans un institut d'études théologiques. Alors, je précise, moi, je ne suis pas théologien. Je ne suis même pas universitaire, j'ai effectivement avant tout une formation de journaliste. Pendant 17 ans, j'étais à La Croix, et ce qui m'a peut-être beaucoup nourri, c'est d'avoir la chance, grâce à ce journal, de faire des reportages dans pratiquement toute l'Europe. J'ai effectivement pu être correspondant dans cette ville et à Rome plusieurs années, mais aussi entre les deux, de faire des reportages dans pratiquement les 28 pays de l'Union européenne, que ce soit en Portugal, en Finlande, ou en Estonie, ou en Irlande, ou en Grèce, ou en Hongrie, et donc de voir aussi vraiment l'Europe sur le terrain. Et donc c'est aussi à partir de toute cette connaissance, plutôt expérience empirique, que j'ai voulu bâtir ce propos ce soir. Expérience à Bruxelles des institutions, mais aussi de tout le continent, donc sans prétention philosophique ou universitaire. Alors, en revanche, je sais que dans un institut universitaire comme celui-ci, quand on vous donne un sujet comme ça, il faut toujours commencer par définir les termes. Donc, comme on ferait un bon élève, Alors, identité déjà, parce que rien que le mot est un peu redoutable, puisque identité, c'est en fait c'est un mot à double tranchant, si je puis dire. C'est à la fois ce qui est identique, écoutez, idem, donc qui peut être un peu l'idée de choses en série, et inversement, ce qui est unique, ce qui distingue, ce qui est propre. Et donc, je dirais l'identité, c'est des traits communs articulés avec des attributs propres. C'est ça qui peut définir l'identité. En pratique, s'il faut voir ce qui peut la définir et ce qui peut être les ingrédients d'identité, je mettrai une mémoire partagée, parfois un mode de vie comparable les uns par rapport aux autres, des préférences collectives proches et une vision commune aussi que plusieurs partagent, parfois assises aussi sur des valeurs. Donc tout ça, c'est un peu le vocabulaire qui va nous occuper ce soir autour de l'identité, mais qu'on pourrait appliquer sur plein d'autres sujets. Alors après, comment définir l'Europe? C'est peut-être ça d'ailleurs le plus dur, parce qu'en fait, il y a au moins trois définitions à ce terme. Quand on m'a demandé l'Europe, quelle identité, j'ai envie de dire, mais de quelle Europe vous parlez? Ça dépend en fait de quelle Europe on parle. Je mets de côté la définition la plus élémentaire et géographique, qui est donc de l'Europe comme un continent avec ses cours d'eau et ses reliefs et qui, je dirais, qui intéresse donc la géographie physique. C'est pas forcément de cette Europe-là dont je parle, encore qu'il y a peut-être aussi une identité autour de l'Europe du Danube ou l'Europe du Rhin. On peut trouver à partir de ces matrices-là des traits communs. Mais les trois définitions de l'Europe dont je voudrais parler ce soir, c'est 1. L'Europe, je dirais, civilisationnelle, l'Europe comme civilisation, l'Europe institutionnelle, bruxelloise, ici, et l'Europe comme projet. La première, l'Europe civilisationnelle, c'est peut-être la plus facile à comprendre, c'est l'Europe qui a été façonnée par l'histoire, qui a été façonné par les arts, que justement, que l'on soit en Espagne ou que l'on soit en Angleterre, ou même en Finlande, on peut retrouver des courants communs. Je pense à l'Antiquité, au style gothique. Une fois, je me souviens d'avoir fait un reportage à la Croix sur les frontières du gothique. Jusqu'où va ce style? Alors ça nous intéresse en France parce que, en tant que Parisien, c'est vrai qu'on on sait que le style gothique est beaucoup né autour des cathédrales en Ile-de-France, mais après il s'est répandu et s'est décliné de d'autres manières. Et quand vous allez en Finlande, vous trouvez une des dernières cathédrales gothiques qui soit aussi à l'est et aussi septentrionale. Après, effectivement, en Russie, il n'y en a plus. Et on en trouve dans les Pays-Baltes, on trouve bien sûr en Espagne. Je pourrais parler pareil de la Renaissance, du baroque, que ce soit à Saint-Pétersbourg ou à Naples, vous savez, du baroque. Et donc ça traverse tout le continent. D'ailleurs, quand on cherchait ce qu'on pouvait mettre sur des billets de l'euro, c'était une grande question identitaire posée aux Européens: qu'est-ce que vous allez mettre sur votre monnaie? On s'est réfugié dans l'architecture, donc avec vous avez tout ça dans les billets de 5, 10, 20 euros, des traits d'architecture commun. C'est pas un monument en particulier, même si on peut un peu déceler des ressemblances avec le pont du Gard ou d'autres choses, mais en tous les cas, ça définit c'est très européen commun. Au-delà de l'histoire et des arts, c'est aussi, on le voit dans l'urbanisme, si vous comparez des villes aussi distantes, mais en même temps proches et aussi belles que Sienne ou Bruges, on retrouve des grands places, la Beffroi, Campanile, ou des choses qui en fait caractérisent la ville européenne avec sa grande place, les monastères, les universités, les foires ont façonné l'espace européen. Et toute cette Europe là effectivement a été en grande partie façonnée par l'Église. Presque une évidence que de voir que dans quelle que soit l'attitude où on est en Europe, on trouve beaucoup de ce que je viens de décrire, enfin, l'université créée par l'Église, tout le réseau des monastères, les cathédrales et autres, définissent cette Europe. Et avec, je dirais, un foyer culturel important qui est Rome. Je dis ça parce que ça m'a beaucoup marqué quand, les années où j'y habitais, à quel point, en fait, on ne se sent quand même pas étranger dans cette ville. Quand vous voyez le Forum, quand vous voyez le Colisée, quand vous voyez, ça vous semble, vous avez vu dans vos livres d'histoire, et donc, je dirais, être européen, peut-être une première définition, c'est ne pas se sentir étranger à Rome. Et y retrouver une partie de sa culture. Et c'est vrai parce que, au fil de longtemps, même au XVIIe, XVIIIe siècle, au XIXe aussi, le voyage à Rome faisait partie d'une bonne éducation, pas seulement artistique, mais c'était donc retrouver là l'Europe civilisationnelle. Bien sûr, je ne voudrais pas donner là l'impression d'une Europe justement trop uniformisée. On sait qu'elle est marquée par, déjà à la base, par des peuples très différents, que même quand vous êtes en Italie, il y a les Latins, il y a les Celtes, il y a les Slaves, il y a les Scandinaves, il y a les Anglo-Saxons, donc ça fait des peuples différents. Je parlais de l'Église, mais l'histoire du christianisme en Europe est marquée par des schismes, que ce soit entre l'Orient et l'Occident avec les orthodoxes, les guerres de religion avec la Réforme. Malgré ça, donc, c'est une identité qui a évolué. Je voudrais peut-être là-dessus citer ce qu'a été le pape François lorsqu'il a reçu le prix Charlemagne en 2016 à Rome. Justement, il a prononcé ce discours important, je cite, où il dit « Les racines de nos peuples, les racines de l'Europe se sont consolidées au cours de son histoire du fait qu'elle a appris à intégrer dans une synthèse toujours neuve les cultures les plus diverses et sans lien apparent entre elles. L'identité européenne est et a toujours été une identité dynamique et multiculturelle. » Effectivement, ça a été le cas tout au long de l'histoire avec cet apport que je viens de rappeler très, très schématiquement. Donc voilà la première définition, mais ce n'est pas ici hein, pour faire un cours d'histoire de l'art ou un cours d'histoire, c'est cette Europe civilisationnelle. Alors après, quand on parle d'Europe actuellement dans les médias ou lorsque ça fait la une des journaux, ce n'est pas du tout de cette Europe-là dont on parle. C'est plutôt l'Europe que j'appelle l'Europe bruxelloise, justement, c'est l'Europe institutionnelle. L'Europe des directives, des règlements, des normes, des fonds structurels, de l'euro, d'Erasmus, ou de Schengen, de la PAC, de la Commission européenne, du Conseil, du marché intérieur. Il y a tout un c'est développé toute une en somme, c'est l'Union européenne. Et ça, c'est, quand on dit Europe, très souvent, on renvoie plutôt, avant tout, à cette Europe-là, qui a son propre langage, son propre jargon. Charles de Gaulle parlait du volapük à propos du jargon européen. Mais en tout cas, c'est effectivement une Europe qui a sa propre identité institutionnelle. Et puis, troisième définition, peut-être plus... peut-être la plus difficile à saisir, c'est l'Europe comme projet. Alors là, ce n'est pas l'Union européenne, et ce n'est pas le projet avec les mots, mais c'est le projet d'Europe unie. C'est différent. C'est-à-dire que ce projet d'Europe unie, cette vision d'une Europe unie, actuellement prend la forme de l'Union européenne, mais l'Union européenne n'est pas une fin en soi. Peut-être, d'ailleurs, avant, ça s'appelait communauté, ça pourra peut-être être autre chose après. Et là, c'est une Europe en devenir. C'est ce qu'on appelle faire l'Europe. Donc c'est une identité à venir qui n'est pas forcément encore là, qui se construit. Et c'est tout autour du vocabulaire de construction européenne, d'une Europe qui est à faire. Pour certains, c'est même la visée fédéraliste, par exemple. C'est cette Europe qui peut-être se rêve comme une puissance, comme un modèle, comme une référence, mais qui se projette. C'est l'Europe comme... Le décrit bien Luc Van Middelaar dans son très bon livre L'Europe qui improvise, l'Europe du, entre guillemets, l'Europe du pas encore, donc l'Europe qui advient. Et celle-ci se définit plutôt par rapport au reste du monde. Et donc, je voudrais insister donc sur ces trois définitions de l'Europe, civilisationnelle, institutionnelle et comme projet, pour les voir ce qui les distingue et les rapproche. C'est vrai que la première est plutôt tournée vers le passé, la seconde vers le présent et la troisième vers le futur. La première est peut-être aujourd'hui un peu légendée, mystifiée. La deuxième, souvent caricaturée, voire rejetée. Et la troisième, rêvée ou cauchemardée. La première fait appel plus au sentiment, à la sensibilité, voire à la passion. La deuxième, vraiment à la raison. Ce que disait Raymond Aron, que l'Europe fait appel à la raison, pas au sentiment populaire. La troisième, davantage à la conscience de notre mission dans le monde. La première, elle est reçue, un héritage. La deuxième, on l'a. La troisième, elle est à faire. La première, elle est étudiée surtout par les historiens, les anthropologues, les sociologues. La deuxième est plutôt une affaire de juristes et d'économistes. Et la troisième, elle intéresse les politiques et les géostratèges. Je dirais que s'il fallait encore plus marquer le trait, je dirais qu'il y en a une qui est la première est un peu solide, la deuxième liquide et la troisième gazeuse. Si on pourrait bien laisser jusque-là le trait. Donc voilà, quand on dit Europe, mais de quelle Europe on parle? Et en fait, chacune des trois rencontre un obstacle. Il y a des controverses à lever sur chacune d'elles, c'est en fait trois identités brouillées, voire qui peuvent être dénaturées. La première, c'est qu'effectivement, dès qu'on parle de civilisation européenne, c'était frappant de voir que dans l'adresse qu'Emmanuel Macron a adressée aux citoyens d'Europe du 5 mars dernier, vous avez peut-être lu, plusieurs fois il se réfère à la civilisation européenne, c'est le mot qui revient. Mais très souvent, on oppose à cela, où ça a été peut-être pu être déformé, par les nations. C'est-à-dire que on vit dans une compréhension où il y a soit l'Europe, soit les nations. Mais que les nations, que le projet européen aurait tendance à vouloir avaler, dépasser, être supranational, post-national, et que les nations s'y noieraient. Et inversement, il y a eu une tendance à nationaliser ce qui peut-être au départ est européen. Charles de Gaulle, dans une fameuse conférence de presse en 1962, disait « Dante, Goethe, Chateaubriand appartiennent à toute l'Europe dans la mesure où ils étaient respectivement et éminemment italiens, allemands et français ». Alors, parfois, il peut y avoir même des anachronismes, parce que parfois, l'Italie ou l'Allemagne n'existaient pas même en tant qu'État avant cela. Où on a parfois nationalisé des choses qui n'étaient pas encore à l'époque ni forcément nationales ni forcément encore européennes, parce que même la conscience même d'européen est venue aussi plus tard, sur des grands personnages. Je pense par exemple à Charlemagne. Moi, quand j'ai vécu en Belgique, enfin, je suis allé à la chambre et il y avait un grand portrait en pied de Charlemagne comme le premier des Belges. Je suis allé une fois près de Liège, où effectivement, un endroit où on me dit que c'est là qu'il serait né. Donc voilà, Charlemagne est belge. Après, je suis allé à Aix-la-Chapelle, où on remet le prix Charlemagne chaque année, on dit qu'il est un Allemand. En Italie, on me dit que c'est le roi des Lombards. Et c'est vrai qu'au Vatican, il y a la grande L Charlemagne. Et puis en France, moi j'ai toujours appris que Charlemagne était français, donc c'est vrai qu'il peut avoir certains anachronismes, et ce qu'il lui-même aurait dit qu'il était européen, c'est peut-être le moment où le mot commence à apparaître au 8e siècle, mais voilà, on est dans le début de cette prise de conscience, et où parfois on nationalise a posteriori. Inversement, parfois il y a des quand on parle de grands personnages qui marquent le continent, ils sont bien plus que leur seule nationalité. Moi, à Paris, j'habite pas loin de l'avenue Mozart, et c'est vraiment comme par toutes les plaques de rue à Paris, il y a toujours écrit la fonction, le métier de la personne. Mozart, il y a écrit compositeur autrichien. Et c'est vrai, mais quand on écoute Mozart, on ne dit pas, tiens, j'écoute de la musique autrichienne. Enfin, on sait bien plus que l'Autriche à travers Mozart. Et d'ailleurs, il sait lui-même, il a vécu dans il a été à Rome, il a été à Prague, il a été bien au-delà de son pays. On pourrait dire pareil pour Léonard de Vinci, où on aime bien aussi en France s'approprier quand on va dans le château de la Loire. Enfin, voilà, de mettre des nationalités sur des personnages, parfois, c'est nationaliser ce qui peut être européen. Et ce que je veux dire surtout par là, c'est que on voit bien que ces identités nationales européennes, plutôt que les opposer, elles sont vraiment enchevêtrées, complètement enchevêtrées. J'aime beaucoup cette phrase de Václav Havel qui disait « je suis tchèque, donc européen ». Il ne dit pas « je suis tchèque et européen », comme si d'un côté je suis européen, de côté je suis tchèque, et c'est « je suis tchèque, donc européen ». Et on ne peut pas être européen ex nihilo, de rien, on est, c'est l'un dans l'autre. Et ça, c'est peut-être important pour lever cette opposition entre Europe civilisationnelle et les nations. Je dirais que c'est peut-être là que prend tout son sens cette devise de l'Union européenne qui est unie dans la diversité. C'est ce que, d'ailleurs, je voudrais reprendre une déclaration du Conseil européen de 1973 à Copenhague, parce que même au niveau des chefs d'État et gouvernement, une fois, ils ont eu une déclaration sur l'identité européenne. C'était à l'ordre du jour. Il n'a pas eu ma connaissance depuis, mais en 1973, il disait « cette variété des cultures dans le cadre d'une même civilisation européenne ». Donc plusieurs cultures dans une civilisation européenne. C'est comme ça qu'on peut réconcilier les deux. C'est encore peut-être plus facile pour les non-européens, beaucoup des étrangers, lorsqu'ils, des Asiatiques qui viennent en Europe, ont parfois une meilleure perception du tout que forme l'Europe que nous, lorsque nous distinguons nos pays. Donc c'est vrai que la perception est parfois plus nette de l'extérieur et hors d'Europe. Mais on a vu cette difficulté à vraiment accepter une identité européenne au sens là, de civilisationnel que je donne. Moi j'ai vraiment ressenti au moment de l'élargissement, en France notamment, où d'ailleurs justement c'était un élargissement à l'Est, mais jamais l'idée d'une... Il y avait en fait deux lectures différentes selon qu'on était à l'Est ou à l'Ouest. À l'Est, à l'époque, c'était vraiment rejoindre la famille européenne. C'était presque un projet national pour la Pologne de retrouver la famille, donc retrouver quelque part notre civilisation dont les Soviétiques nous avaient en quelque sorte coupé avec leur régime. Donc on retrouvait cette grande famille européenne. Et vu de l'Ouest, c'est plutôt, mais c'est qui eux, c'est pas vu comme une réconciliation Est-Ouest, c'est vu comme un élargissement pas forcément nécessaire, trop rapide, et donc on a du mal à encore aujourd'hui peut-être à projeter une même idée de civilisation sur ce qu'on appelle parfois encore l'autre Europe, et c'est ce qui 30 ans après la chute du mur peut encore nourrir un certain clivage Est-Ouest. Dans la définition de l'Europe bruxelloise, institutionnelle, là, le grand obstacle, c'est la démocratie, la légitimité. En fait, ce qui prive l'Europe institutionnelle d'être identifiée à sa juste valeur, c'est le procès permanent dont elle fait l'objet d'être en déni de démocratie. C'est le fameux bouc émissaire de la faute à Bruxelles. Et lorsqu'on a fait les élections européennes en 1979, donc il y a 40 ans, on imaginait à l'époque que ces élections allaient peut-être commencer à suppléer à cela et à donner plus de légitimité aux institutions européennes, à lever ce déficit démocratique, comme on disait. Et on le voit aujourd'hui, nous en tout cas à l'Institut Jacques Delors, on répète qu'il n'y a pas de déficit démocratique aujourd'hui dans l'Union européenne, du moins structurellement. Les institutions, on va avoir des élections européennes bientôt, ce sont des, on pourrait dire plutôt que les appeler élections européennes, ce sont des élections législatives de l'Union européenne. On va élire des co-législateurs desquels dépendra la Commission européenne et donc les lois qui seront proposées et votées. Mais on sent que ce n'est pas une démocratie, même si même sur le papier elle existe et structurellement il y a des. Les séparations de pouvoir sont là, elle n'est pas charnelle, elle n'est pas politiquement auto-habitée, on n'a pas encore d'espace politique européen vraiment, et ceux qui deviennent eurodéputés ont souvent plus l'impression, pour employer une image footballistique, de jouer en Ligue 2 que de jouer vraiment en Ligue 1. En Ligue 1, c'est quand on joue au national. C'est ça aussi qui prive en fait la vraie substance, et parfois... d'appartenance à cette Europe institutionnelle. En fait, on est incapable de dire Bruxelles, c'est nous. C'est ce que Emmanuel Macron avait essayé de dire dans un de ses premiers discours. Bruxelles, c'est nous. Est-ce qu'on est capable de le dire aujourd'hui en Europe? Non, et c'est ce qui prive, en fait, effectivement, cette Europe bruxelloise de sa véritable identité. On a l'impression, à en écouter certains, que c'est un comme un corps étranger. Et il y a là certainement eu un échec, en fait, dans le pari des pères fondateurs d'arriver à générer un citoyen européen. Le pari de la théorie d'engrenage, qui était fait que par les petits pas et la mise en commun de plus en plus de choses, on arriverait en quelque sorte à ce que cette Europe institutionnelle débouche sur une Europe politique avec un citoyen européen politique. Comme dit Pascal Lamy, on n'a pas franchi la barrière des espèces. C'est-à-dire que l'Europe s'adresse aux consommateurs européens, à l'agriculteur, pour la PAC, à l'étudiant Erasmus. Mais en fait, tout ça ne débouche pas forcément sur un citoyen politique. Ou pour le dire autrement, comme disait très bien Jacques Delors, on ne tombe pas amoureux du marché intérieur. Donc on peut très bien bénéficier, être bien dedans, mais on ne va pas s'identifier avec ça. Et donc le passage vraiment à une Europe plus politique, identifiée comme telle, n'a pas fonctionné. Il dirait que cette question de la légitimité démocratique devient encore plus aiguë aujourd'hui, où dans cet espace européen qui est quand même fondé sur le respect de règles communes, sur le fait que ces 28 pays de l'Union européenne sont des démocraties qui partagent les mêmes principes de fonctionnement, de démocratie libérale, de respect de l'état de droit, aujourd'hui, et en partie mis à mal avec le comportement de certains pays qui prennent beaucoup de liberté, je dirais, avec cela. Quand on voit aujourd'hui en Hongrie, en Pologne, donc ça rend l'identité de cette Europe institutionnelle beaucoup plus difficile à être valorisée et à être comprise. Et l'obstacle, je dirais, de l'Europe comme projet, c'est que celle-ci se heurte aujourd'hui, du moins, à un manque de volonté, à une crise de leadership, à un défaut d'incarnation. Effectivement, tout à l'heure, on rappelait l'époque de Delors, qui est parfois vu comme un âge d'or, mais qui n'était pas tout seul, qui était avec Mitterrand, Kohl, Felipe González, quelques-uns qui pouvaient, avaient une vraie envie de porter un projet européen. C'est le cas aussi des pères fondateurs. Aujourd'hui, effectivement, on est dans une crise de leadership où il y a beaucoup de gouvernements affaiblis, de coalitions fragiles, et donc ça empêche de donner de l'élan à un tel projet. Et peut-être aujourd'hui la question la plus grave dans ce contexte, c'est quand même la question allemande, où l'Allemagne, qui a longtemps été moteur avec la France du projet, aujourd'hui ne sait plus très bien ce qu'elle veut. Peut-être beaucoup pour plutôt un statu quo, ou en tout cas est très prudente et plutôt échaudée par des crises passées, et donc est plutôt en train de pas forcément vouloir avancer de trop sur l'Europe comme projet. Alors, quelles seraient les solutions pour avancer davantage, pour affirmer l'identité européenne? J'en vois quatre, pour vous dire. D'une part, par rapport à chacune des trois Europes que je définis, pour la première, pour l'Europe civilisationnelle, si on veut qu'elle soit mieux admise, mieux comprise, le vrai défi, là, c'est un défi pour l'éducation. La façon dont comment on enseigne l'histoire dans chaque pays, comment est-ce qu'on enseigne l'histoire en Hongrie par rapport en Belgique ou ailleurs? Est-ce que là, il ne s'agit pas du tout d'unifier l'enseignement, au contraire, parce que ce n'est pas d'ailleurs une compétence européenne. Il y a eu parfois une tentative de faire un manuel d'histoire franco-allemand, mais en quoi est-ce qu'on nourrit ou non le nationalisme à travers aussi les enseignements d'histoire, ou est-ce qu'inversement, est-ce qu'on arrive aussi à montrer la part européenne qu'on partage dans notre éducation? Est-ce qu'on même dans l'éducation civique, il y a une part aussi de compréhension des institutions? C'est un vrai défi donc pour l'éducation. L'éducation qui passe aussi par le voyage. Effectivement, c'est tout l'enjeu d'Erasmus, mais En même temps, on sait bien que l'Europe ne peut pas, si pour être européen et pour trouver son identité européenne, il faut avoir voyagé, ça aide, mais ce serait un peu triste de savoir que être européen est soumis à la seule mobilité. Parce que pour toutes les personnes qui ne peuvent pas bouger, et peut-être plus dans une Europe plus vieillissante, ce serait un mal. Donc l'Europe, l'identité européenne ne peut pas se définir qu'à travers la mobilité et les voyages, mais aussi dans l'enseignement qu'on reçoit. L'autre élément de réponse par rapport à l'Europe institutionnelle, c'est bien sûr, c'est un défi là, non pas pour l'éducation, mais pour l'information. Et là, je m'exprime peut-être aussi en tant qu'ancien journaliste. On est très loin d'une européanisation de l'espace médiatique. Qui est pourtant aussi important pour mieux se comprendre entre pays. Dans beaucoup de rédactions aujourd'hui, vous avez soit l'actualité nationale, soit tout de suite l'actualité internationale, qu'elle soit africaine, asiatique ou allemande, c'est les pages internationales, et puis quand c'est des pages nationales, voilà. Mais on est dans ce schéma-là, et je pense que ça joue beaucoup dans la façon dont on identifie aussi l'Europe. Est-ce que l'Europe c'est une affaire étrangère, ou est-ce que c'est une affaire nationale, ou est-ce que c'est entre les deux? En tous les cas, ça, c'est l'identité. Est-ce qu'on arrivera à dire Bruxelles c'est nous si effectivement on voit que ce n'est pas simplement quelque chose d'étranger? Et enfin, pour la solution, je dirais la réponse à l'Europe comme projet, ce qui peut aujourd'hui, je vous disais qu'il y avait une panne de projet, un manque de volonté, ce qui peut le réveiller, ce qui peut le susciter et parfois créer aussi finalement un sentiment commun. C'est ce que j'appelle la conjonction des menaces. Aujourd'hui, l'Europe est beaucoup plus sensibilisée aux menaces externes, qu'elles soient climatiques, trumpiennes, poutiniennes, je n'ose pas dire erdoganiennes, mais chinoises, qui sont autour de nous. L'Europe, en fait, se découvre à travers cela qu'elle a peut-être un rôle aujourd'hui dans le monde, dans lequel elle ne reconnaît plus ses valeurs chez les autres, en tout cas pas dans l'administration de Trump, et que dans un monde multipolaire, elle a un rôle aujourd'hui important si elle veut sauver le multilatéralisme. Et ça, cette menace peut unir, et on découvre en fait que nos valeurs que l'on croit universelles font aussi en partie notre singularité, et nous distinguent aussi comme Européens. J'étais assez marqué ces derniers jours par cette image qui est assez inédite dans l'Europe, lorsqu'on voit Jean-Claude Juncker, Emmanuel Macron et la chancelière Merkel face au président chinois en France. C'est nouveau comme façon, et ça dit aujourd'hui ce qu'est le projet européen face au monde par rapport à ce qui était avant. Donc là, on a un début de réponse au projet européen. Mais peut-être la vraie façon de trouver ce qui est vraiment l'identité européenne, c'est non pas, comme je le fais depuis le début, de distinguer ces trois Europes, mais c'est de les penser ensemble, de les tenir ensemble, de les réconcilier, comme des branches les unes aux autres. Si vous regardez par exemple la déclaration Schuman de 1950, qui est le coup d'envoi de la construction communautaire, vous trouvez... Vous pouvez la dire avec cette grille des trois Europes, puisque d'une part, il ne commence pas tout de suite par dire on va faire une haute autorité pour le charbon et l'acier. Il commence par évoquer mémoire commune partagée par les régions de Rennes et de Sarre et de ce que ces peuples ont vécu en commun. Donc il se réfère à une mémoire partagée. Ensuite, il y a des institutions effectivement qui sont avancées, une réponse institutionnelle à cette Europe, mais c'est bien ancré là-dessus. La haute autorité, toutes les bases en sont jetées, et ils jettent une vision disant que c'est en vue d'une fédération européenne qui sera même tournée vers l'Afrique. Enfin, voilà, il y a cette Europe comme projet. Donc on trouve bien les trois séquences. Et ce qui explique peut-être la crise, pourquoi l'Europe n'a jamais réussi à trouver une vraiment identité affirmée, c'est que les trois Europes dont je parle sont trop souvent distinguées et séparées comme étant indépendantes les unes des autres. Il y a la même déclaration de Paris de philosophe qui est allée jusqu'à distinguer l'Europe réelle et l'Europe légale, je n'irai pas jusque-là. Et c'est vrai que tout le débat qu'il y avait eu, vous souvenez-vous, en 2004-2003, c'était autour des racines chrétiennes, c'était en fait dans le préambule. Le préambule servait à articuler l'Europe civilisationnelle avec l'Europe institutionnelle, ça sert de trait d'union. Et là, on n'a pas réussi à faire cette jonction. En fait, quand les soubassements philosophiques qui sont ancrés dans la civilisation européenne n'apparaissent pas dans telle législation, dans telle directive, ou qu'on ne les fait pas apparaître dans la projection future, on ne voit pas ce qui le lie. Mais pourtant, on peut le faire. Enfin, je vais vous donner deux exemples récents. Le RGPD, le règlement pour la protection des données. Vous allez me dire, voilà, un règlement européen, bon, c'est l'Europe institutionnelle dans tout ce qu'elle sait faire. Mais il faut voir aussi que peut-être ce règlement, effectivement, il a été voté en Europe, il n'aurait peut-être pas été voté au Congrès américain, il ne serait peut-être pas apparu en Inde. Il se trouve qu'il est né en Europe parce qu'il a derrière lui, plutôt sous-jacent dans ce qu'il porte, une certaine idée de la protection des privés, des approches qui sont reliées à notre civilisation et qui en fait aussi sont un projet pour mieux se protéger des GAFA, des Big Tech. Donc on peut faire une lecture avec ces trois Europes, par exemple, d'un projet comme celui-là. Lorsque la Commission refuse la fusion Alstom-Siemens, là aussi, Europe institutionnelle, lecture directe, qu'est-ce que ça dit de l'Europe, cette décision? Il y a quand même, quelque part, vous voyez que les deux grands pays de l'Union européenne, c'est-à-dire le Brexit, France et Allemagne, acceptent de se soumettre à la Commission pour refuser une fusion qui pourtant est soutenue, donc à se soumettre au droit. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on verrait ailleurs. Donc il y a à chaque fois à révéler peut-être la valeur cachée qu'il y a dans nos institutions et qui en fait disent quelque chose aussi de notre civilisation. On voit qu'on n'est pas dans des rapports, toujours que dans des rapports de force, mais dans un certain respect du droit, un certain respect entre guillemets des petits pays. Et ça dit quelque chose aussi de l'identité européenne. Peut-être que le Brexit, justement, s'explique par cette incapacité à relier les trois définitions de l'Europe pour les Anglais. L'Europe, c'est Bruxelles. C'est pas forcément. Et si c'est un projet plus ambitieux, ça peut faire peur. Et c'est intéressant lorsque souvent ils disent mais on quitte l'Union européenne, mais on ne quitte pas l'Europe. Donc on ne quitte pas l'Europe civilisationnelle, on est des Européens. Et c'est vrai que si vous allez à Canterbury ou au mur d'Adrien, vous trouvez cet héritage dont je parlais. Mais les Brexiteurs refusent en fait de joindre ces trois définitions d'Europe que je décris. D'autres diront l'Europe bruxelloise, c'est pas du tout l'Europe, ça se comprend, elle s'est dévoyée dans des projets, dans l'austérité, dans le néolibéralisme, dans toutes sortes de choses qui ne sont pas en fait, qui ne sont plus l'Europe telle avec les valeurs qui sont sous-jacentes, il y a comme un fossé entre les deux. Donc, pour arriver à trouver une identité européenne, et encore une fois, la clé c'est de réconcilier ces trois Europes entre elles. Il y a à la fois ce que je dis, les obstacles propres à chacune, mais aussi des malentendus à lever, mais aussi ces trois Europes à relier. Pour conclure, et puisque nous, pas seulement parce que nous sommes à l'Institut d'études théologiques, mais je voulais citer le pape François pour comment est-ce qu'on peut faire justement pour mieux réconcilier ces trois Europes. Alors là, je vais citer sur des choses quand il en parlait, ça n'avait rien à voir avec l'Europe, mais je pense que ce sont quatre principes qui peuvent toujours nous aider à avancer. C'est les quatre clés pour avancer lorsqu'on est dans des différences. C'est d'une part que le tout est plus grand que la partie. Donc à chaque fois, c'est dans un conflit, c'est important de voir que le tout est plus grand que la partie, que l'unité est supérieure au conflit, que la réalité est supérieure à l'idée et que le temps est supérieur à l'espace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, la construction européenne, effectivement, elle s'apprécie davantage dans le temps et dans ce processus lent qu'elle habite que dans une occupation d'espace de pouvoir. Donc, en conjuguant ces quatre principes, on peut arriver à davantage trouver ce qui fait notre unité. Et c'est sans doute quatre principes que tout nouveau député européen qu'on élira le 26 mai pourrait avoir. Voilà, c'est ce que je voulais dire en conclusion, et je serais heureux d'avoir votre avis, que l'identité européenne, elle a besoin d'être révélée, elle est en partie à fabriquer, mais elle se révélera pleinement lorsque l'Europe civilisationnelle, l'Europe institutionnelle et l'Europe en projet ne feront qu'un. Merci.